Allô, oui, bonjour, monsieur Daniel Marmet, bonjour à tous les auditeurs. Ben, je viens de revoir ça à la télé maintenant, actuellement, il est 8h10. Comment s'appelle, l'armée israélienne a attaqué les navires de la Liberté qui emmenaient les médicaments ainsi que les aides pour Gaza. Ben, là, on va sur la chaîne Al Jazeera qui a au moins 16 morts. C'est un crime abominable, abominable, abominable.
Je pense à tous les militants qui ont été victimes de l'assaut israélien, ces bateaux qui se rendaient en Palestine avec une aide humanitaire, une aide alimentaire pour tous ces Palestiniens qui souffrent de l'embargo. J'espère vraiment que cette militante qui nous parlait régulièrement sur le répondeur, eh bien, j'espère que cette personne n'a pas subi trop de violence de la part de l'armée israélienne. En tout cas, je crois que M. Sarkozy et tous les représentants de ce beau pays, tous les représentants politiques de ce beau pays devraient se mobiliser pour la cause palestinienne. Voilà, en tout cas, je suis très ému par rapport à ce qui s'est passé et j'admire ce geste, ce courage de tous ces militants. Voilà, à très bientôt et je vous embrasse tous.
Il y a eu un truc qui s'est passé au large de Gaza ce matin. J'en connais qui vont se retrouver indignés. Je les préviens que cette indignation, aujourd'hui, ça s'appelle de l'antisémitisme et que donc il faut faire attention à ce qu'on raconte.
Je compte sur vous, Daniel Mermet, pour que nos voix, étouffées par la campagne de désinformation d'Israël et de la communauté internationale, se fassent entendre. Après les crimes de guerre faits à Gaza, Israël vient d'assassiner des humanitaires venant de 40 pays qui essaient d'apporter un peu d'aide face à un blocus criminel en violation du droit international. Impossible d'apporter de l'aide par des voies officielles, Israël mène un siège atroce et le pire prétend que c'est contre le Hamas. La réalité, c'est une violence quotidienne que subit un peuple privé de tout, dont les vivres, les médicaments. Aucune reconstruction n'a été possible. L'Hamas, de plus, a été aidé par Israël contre l'autorité palestinienne en son temps pour diviser les Palestiniens et en plus a été élu démocratiquement. Il faut protéger les Palestiniens, leur résistance héroïque et dénoncer les mensonges d'Israël, son occupation criminelle et faire respecter les conventions et les principes internationaux.
Voilà, j'ai un petit souci. Je suis originaire d'Haïti. J'ai fait la demande d'un visa pour ma mère et ma sœur d'après ce qui s'est passé en Haïti. Et depuis le 3 mars, j'ai déposé les dossiers au ministère à Paris en recommandé. Jamais de suite. J'ai eu des élus. Ça n'avance pas beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a oublié ce qui s'est passé en Haïti. Les gens sont toujours dans la misère, dans la pauvreté. Bah, voilà quoi. Merci beaucoup et longue vie à votre émission.
La crise. La crise. C'est la faute de la crise. Ils ont raison, nos politiciens. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que la crise, c'est la leur, celle de leur système. Surtout, ne touchez pas au bouclier fiscal, aux niches du même nom, aux banques, aux marchés, aux fonds spéculatifs. Laissez les fonds de pension américains investir dans nos entreprises et après les avoir pillés, les délocaliser. À propos de délocalisation, laissez nos chefs d'entreprise délocaliser et exporter nos machines et nos technologies. Les délocalisations nous ont coûté des centaines de milliers d'emplois. Et aujourd'hui, ce sont autant de cotisations qui manquent et qui combleraient en grande partie les trous de la Sécu et celle des retraites. Avec 3-4 millions de chômeurs, ça ne vous gêne pas, messieurs les politicards, de rallonger l'âge de la retraite et de laisser crever les vieux au boulot pendant que vous n'êtes pas capable de donner du travail aux jeunes. C'est la crise, la faillite de votre système, et vous allez encore trouver les moyens de taxer petits et moyens revenus. Continuez tant que la révolte ne gronde pas, mais ça peut venir.
Bonjour Daniel, je voulais remercier les équipes du Diplo et de là-bas si j'y suis pour la conférence organisée avec Noam Chomsky samedi à la Mutualité. J'ai fait plus de 1000 km pour venir vous écouter et c'était vraiment passionnant. J'espère que ce genre de conférence fera des petits. Encore un grand merci.
Merci pour ce beau moment passé en compagnie de Noam Chomsky à la Mutualité aujourd'hui. Une question que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser et que j'aurais aimé pouvoir lui poser à la fin de la conférence. Face au tableau géopolitique et économique plutôt sombre que vous dressez dans cette conférence, quelle initiative positive, quelle issue porteuse identifiez-vous pour le monde à venir, celui de nos enfants? Merci de lui transmettre ma question.
D'accord, mais c'est pas la seule question qui a été posée et qui s'est posée et que vous avez eu envie de poser à Chomsky, à Noam Chomsky, ce samedi à la Mutualité. Vous étiez plus de 1500 à l'invitation à l'initiative du monde diplomatique pour cette rencontre avec Noam Chomsky qui a fait une longue conférence dont vous pourrez retrouver le texte sur le site là-bas.org de là-bas si j'y suis. C'est chomsky.fr, ce site d'autodéfense intellectuelle qui a donné cette traduction et elle sera en ligne tout à l'heure. Aujourd'hui, là, on va trouver les échos de ces moments, de ce week-end avec Noam Chomsky. Vous savez qu'il était invité par le Collège de France ce vendredi toute la journée. Il y a eu toute une suite d'interventions, de conférences autour du thème d'une filiation, disons, entre Bertrand Russell, George Orwell et Noam Chomsky. Dans quelques jours, à partir de lundi prochain, vous pourrez regarder cette conférence sur le site du Collège de France. Et puis, il a donné des conférences aussi de linguistique. Et samedi, donc, il était à la Mutualité. On va en avoir quelques échos. Et puis, dimanche après-midi, il a rencontré des lycéens d'un lycée de Clichy-sous-Bois, le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Vous allez en avoir des échos également. Et puis, hier soir, à l'invitation de Là-bas, si j'y suis, et des mutins de Pangée, Noam Chomsky était à la Maison des Métallos à Paris pour rencontrer des syndicalistes. On avait demandé à des syndicalistes de venir pour discuter avec Noam Chomsky. Ça a été un formidable moment pour les spectateurs, pour tous. Et on va en avoir quelques échos aujourd'hui en première partie. Voilà le programme du jour, donc vous avez compris. Mais je voudrais vous faire entendre ce moment hier au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois.
On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc j'aimerais dire que c'est vrai, il y a eu les émeutes. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a beaucoup parlé. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe derrière. J'ai une petite idée qui a émergé là, au sujet du chômage, du taux de chômage. Enfin, ce qui serait bien aussi, ce serait interdire la délocalisation. Donc ça éviterait les pertes d'emplois ici. Et au lieu de délocaliser dans d'autres pays, autant délocaliser dans les banlieues justement. Donc ça favoriserait l'accès aux travailleurs, aux ouvriers dans leur usine, sans pour autant partir à l'autre bout du monde.
I like very much the image of that a tree falling makes more noise than a forest growing.
J'ai beaucoup aimé l'idée de l'arbre qui tombe qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
And I hope you won't mind if I borrow it and use it in writing and speaking.
Et j'espère que tu m'en voudras pas si je te l'emprunte pour l'utiliser pour des discours et dans des livres.
I don't know how to give a footnote reference, but I think it captures the essence of what has happened through history and what has to be done.
Mais je pense que ça capture vraiment l'essence de ce qui s'est passé dans l'histoire et dans ce qui doit être fait aussi.
It's true that a forest growing doesn't make a lot of noise, but once it's there, people see it.
Parce que c'est vrai qu'une forêt qui pousse ne fait pas de bruit, mais quand elle est là, tout le monde la voit.
And it overcomes the noise of a tree falling.
Et qu'après, on n'entend même plus l'arbre unique qui tombe quand il y a toute la forêt.
And these are really good and exciting ideas. I'm glad to hear them.
Et je suis vraiment très content d'entendre ces bonnes idées ici.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Voilà une idée qui on retrouvera dans les discours et dans les livres de Chomsky dorénavant. On sait d'où ça vient. Ça viendra de cette étudiante lycéenne de Clichy-sous-Bois. Voilà, donc Noam Chomsky à la Mutualité, un extrait aujourd'hui, puis ensuite à la Maison des Métallos sur le thème du syndicalisme. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et toute l'équipe, ici c'est Fred de la CNT à Paris. D'abord, merci pour la belle soirée à la Maison des Métallos hier soir avec Noam Chomsky. Ce qu'il a dit sur l'anarcho-syndicalisme, ça nous a bien plu, hein, vous vous en doutez. Alors justement, parlant d'anarcho-syndicalisme ici et maintenant, je vous rappelle que l'occupation du siège de People and Baby par les militantes de la CNT dure depuis 5 jours maintenant. Alors People and Baby, c'est la société qui gère les crèches privatisées par la municipalité parisienne social-démocrate, c'est-à-dire de gauche, mais de droite. Ben, vous pouvez venir nous soutenir sur place, au 16 avenue Hoche dans le 8e, au métro Charles de Gaulle Étoile. Sinon, vous pouvez venir en discuter avec nous pendant les 3 jours de la fête de la CNT, les 4, 5 et 6 juin, au 33 rue des Vignoles, à Paris 20e. Il y aura des débats, des projections et des concerts. Et comme le disait Joe Hill, un militant des IWW, ne vous lamentez pas, organisez-vous. Ciao, ciao.
Oui, salut, c'est Marc, éleveur de bovins en montagne dans les Pyrénées-Orientales. C'était au sujet de la langue française. Chaque mot de la langue française a tout le temps de signification. Croire en Dieu, c'est être sûr qu'il existe, mais croire, ça exprime aussi le doute. La retraite, c'est toucher une pension après une vie de travail, mais c'est aussi une débâcle et l'abandon de certaines prétentions. Militairement, c'est un peu un désastre. La réforme, c'est pareil, c'est une amélioration de conditions sociales, mais c'est aussi un terme, nous, quand on réforme des vaches, on les passe à l'abattoir. C'est la mise hors d'usage du matériel. Et on a un problème, quoi. C'est-à-dire qu'on parle tous la même langue, mais on l'interprète différemment. Alors là, la traduction, par exemple, la France qui va accueillir la Coupe d'Europe de football, je crois que ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à 63 ans. Allez, ciao, à plus tard.
Il marche depuis un mois dans le silence assourdissant de tous les médias. Qui ? 90 travailleurs immigrés sans papier et exploités chez nous. Ils sont partis de Paris le 1er mai. Ils vont arriver à Nice le dimanche 30 mai. Rien, personne n'en a parlé. Nous espérons, nous souhaitons leur faire une arrivée triomphale le lundi 31 mai à Nice avec manifestation à 18h30 à partir de la gare SNCF. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de Attac, où vous aurez donc tous les détails. Par contre, alors ça on va en parler, le lendemain, le 31 mai et 1er juin, il y a le sommet des chefs d'État africains, ici même à Nice. Je ne pense pas qu'ils iront faire la bise aux marcheurs.
Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, c'est une réussite. On peut déjà dire que c'est une réussite. Jamais les places dans cette salle n'ont été réservées aussi rapidement. Sauf dans deux cas, la venue du Dalai Lama et de Sœur Emmanuelle. Et on doit ça à l'organisation du monde diplomatique. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Serge Halimi. Alors, auparavant, on va demander à Noam Chomsky de bien vouloir venir.
Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Noam Chomsky, à Paris.
Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Je suis très heureux d'accueillir ici Noam Chomsky au nom du monde diplomatique et en votre nom à tous. Cela fait plus de 25 ans que Noam Chomsky n'était pas venu en France. Non pas par accident, on peut l'avouer, Il n'apprécie pas trop la scène intellectuelle française, son moralisme hypocrite, la place qu'elle consacre à des penseurs de petit calibre. Penseurs presque toujours situés dans un même spectre idéologique très étroit. Nous non plus. Il n'est pas très étonnant que ce petit groupe de gardes-barrières, les gatekeepers en anglais, ait entendu éloigner Chomsky de ses nombreux lecteurs français potentiels. Car au fond, sa parole et ses écrits ont contredit presque point par point ce qu'eux-mêmes entendaient faire de la pensée et de la politique, en France, mais aussi ailleurs. Ce qui, au début des années 80, défendait les tyrannies pro-occidentales en Amérique centrale, au nom de ce qu'ils appelaient le combat pour le monde libre, pour les droits de l'homme, ce qui signait des pétitions de soutien à Ronald Reagan, largement relayées par la presse française, ne pouvait pas voir d'un très bon œil le travail de Noam Chomsky. Dans un texte pétition publié le 21 mars 1985, Bernard-Henri Lévy, Patrick Vachsmann, Jean-François Revel, Emmanuel Leroy-Ladurie et beaucoup d'autres annonçaient dramatique que le grand combat antitotalitaire se jouait en Amérique latine et plus précisément au Nicaragua. La junte sandiniste, je cite le texte, petit commentaire ici, il ne s'agissait pas d'une junte, mais d'un gouvernement légal qui venait de remporter les élections et qui affrontait une insurrection armée d'extrême droite, la Contra, financée par les États-Unis. La junte sandiniste, donc, n'a jamais caché que son but est l'intégration de toute l'Amérique centrale en une seule et même entité marxiste-léniniste. C'est précisément l'objectif recherché par la stratégie soviétique, forcer les États-Unis à se retirer des régions qui représentent une importance vitale pour eux-mêmes et le monde libre. Fin de citation de cette pétition de 1985. Au même moment, les États-Unis, la CIA dans le cas d'espèce, finançaient les escadrons de la mort au Guatemala, escadrons à l'origine actifs dans une répression sauvage qui provoqua la mort de 200 000 personnes. Pour l'essentiel, des Mayas, victimes d'une guerre d'extermination parce qu'ils étaient soupçonnés d'être favorables à des groupes insurgés de gauche. Là, nos intellectuels et les médias ne se mobilisèrent pas. La pétition de soutien à l'extrême droite nicaraguayenne date d'il y a 25 ans. Depuis, les mêmes et de nouvelles générations d'intellectuels médiatiques conservateurs ont exercé une véritable police de la pensée, soutenue par la plupart des grands journaux dans lesquels ces grands penseurs conservent table ouverte. Ces intellectuels pour médias ont successivement soutenu la guerre du Golfe en 1991, celle du Kosovo en 1999, celle d'Afghanistan en 2001. Certains ont même appuyé la guerre d'Irak 2 ans plus tard. Avouons-le, les guerres humanitaires, l'humanitarisme de guerre, les frappes chirurgicales, les bavures nécessaires et tous ces autres termes orwelliens ont un peu moins la cote en ce moment. Les désastres de la présidence Bush auront au moins servi à ça. Et de ce fait, Noam Chomsky a moins mauvaise réputation qu'avant. Longtemps, ces éditeurs furent rares. Il leur fallait bien du courage pour oser publier Noam Chomsky. Il y avait Akrasi et Agon, c'était à peu près tout. Dorénavant, tout le monde ou presque publie Chomsky, ou aimerait le faire. Longtemps, les seuls médias qui évoquaient ses travaux furent des périodiques libertaires. Et puis, pour l'essentiel, Le Monde diplomatique et l'émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Dorénavant, Chomsky est très demandé. Même Le Point, l'hebdomadaire qui compte Claude Imbert, Alain Duhamel et Bernard-Henri Lévy au nombre de ses chroniqueurs réguliers, un choix de gourmet, même Le Point entend publier un entretien avec Chomsky. Sur ce plan, au moins, les choses changent. Pourtant, la règle habituelle, après l'ostracisme, le silence, la récupération, ne risque pas, je crois, de s'appliquer à Noam Chomsky. Car il est à bien des égards, pour reprendre un mot fameux de Sartre dans Les mains sales, non récupérable. Non récupérable parce qu'il s'en prend au cœur du système, à son moteur. Ce que le système fait et pour qui il le fait. Non pas ce qu'il dit qu'il fait, non pas ses bonnes intentions proclamées. Non récupérable parce que Noam Chomsky s'en prend au clergé séculier de ce système, les intellectuels de pouvoir et les experts au service de ce pouvoir. Non récupérable parce qu'il s'en prend à l'appareil de légitimation du système et de ses intellectuels de cour, c'est-à-dire les médias de masse. Non récupérable, enfin, parce que tout cela, Chomsky le fait sans emphase, sans élever la voix, sans se bercer de mots, mais en énonçant des faits, des dates, des noms. Autant de crimes impardonnables, tant il est vrai qu'une critique sensible précise ne gêne personne, et surtout pas les cibles qui ont été épargnées. Épargnées parce qu'elles avaient le pouvoir de faire payer cher ceux qui les mettraient en cause. Chomsky s'en prend au cœur du système. Il interroge la légitimité des actes du pouvoir. Une part importante de ses travaux a concerné un aspect essentiel de la politique américaine, sa politique étrangère, sa politique impériale. Démocrates et républicains se retrouvent dans l'idée que les États-Unis sont bons et qu'ils font le bien, que c'est en tout cas leur intention. Parfois, admettent-ils, l'exécution est déficiente, mais le destin était bien de faire le bien. Pour discuter rationnellement ce postulat, Chomsky n'a pas cherché à provoquer, à attirer l'attention des médias par des actions d'éclat. Il a lui-même conduit ce qu'il recommande aux autres de faire, un processus continu d'éducation, d'organisation, de résistance et de construction d'alternatives. Or, c'est un travail très fastidieux de confronter un énoncé et une réalité. Il impose de s'informer en permanence, d'interroger, de comparer, de mettre en rapport des éléments que le flux de l'information tend à séparer, de lutter contre l'amnésie. Et alors, quand on fait tout ça, ça ne colle pas toujours avec la bande dessinée officielle. Les méchants islamistes afghans ont d'abord été des gentils islamistes afghans. Ils sont aujourd'hui méchants et oppriment les femmes quand ils s'attaquent aux puissances occidentales. Ils étaient gentils et ils exprimaient leur identité religieuse, certes un peu traditionnaliste, quand ils opprimaient les femmes, mais s'attaquaient à l'Union soviétique, que Ronald Reagan qualifiait avec finesse d'empire du mal. On n'est tout de même pas obligé d'oublier cette histoire. Et Noam Chomsky nous la rappelle. Chomsky est également non récupérable parce qu'il n'hésite pas à s'en prendre aux intellectuels. Impossible en France d'évoquer les intellectuels sans faire référence à Zola, à l'affaire Dreyfus, à Sartre, au porteur de valises en Algérie, à Bourdieu, au soutien au mouvement social de novembre-décembre 1995. Mais plus souvent, les intellectuels ont formé le clergé séculier du système. Chomsky a souvent mis en cause les nouveaux mandarins, ces intellectuels de pouvoir au service de l'État et souvent du capital des multinationales. La nocivité de leur action a prouvé qu'il était indispensable de ne pas laisser les savants, les experts, s'occuper de ce qui nous regarde. Dans les démocraties, nous explique Chomsky, les idées impopulaires sont réduites au silence sans censure. L'éducation, la presse, les intellectuels définissent les limites du discours acceptable et ils rendent moins nécessaire l'usage de méthodes coercitives, autoritaires, policières. Fin de citation. Les minorités intelligentes, ou qui se croient telles, estiment en tout cas qu'elles ont vocation à gouverner et que lorsque le pouvoir, ce pouvoir leur est dénié, c'est que le système ne fonctionne pas, qu'il y a une crise des démocraties. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Il y a exactement 5 ans, une large majorité des Français a voté contre un traité européen. Les gouvernants, les deux principaux partis politiques, les médias, les intellectuels dominants, se sont aussitôt étranglés devant tant d'audace. Et puis, ensemble, ils ont décidé que rien ne s'était passé, que le traité refusé serait mis en œuvre quand même. Cela ne les a naturellement pas empêchés de continuer à protester contre tel ou tel manquement à la démocratie, surtout quand il intervenait à l'étranger, de préférence dans un pays jugé hostile aux intérêts occidentaux. On le voit, l'analyse critique des intellectuels et celle des médias vont de pair, car c'est ensemble qu'ils définissent les limites à ne pas dépasser. Ce sont, nous dit Chomsky, eux qui disent jusqu'où il est permis de s'aventurer. Avec lui, aujourd'hui, nous sommes à peu près assurés de nous aventurer au-delà de ces discours autorisés. Merci.
Voilà, un public très, très chaleureux à la Mutualité, samedi après-midi. Et puis donc, dimanche soir, à la Maison des Métallos, un public non moins chaleureux. Lorsque nous avons sorti le film Chomsky et compagnie, les amis d'un repère de la basse, j'y suis à Lons-le-Saunier, nous avaient invités à faire une projection. C'était un moment très très heureux et ils avaient la bonne idée d'inviter Charles Piaget. Charles Piaget, pour ceux qui l'ignoreraient, est un des protagonistes de l'affaire des LIP, la longue lutte des LIP au début des années 70. Ça a donné lieu à un très beau film, LIP ou l'imagination au pouvoir. Et Charles Piaget est venu ce soir-là découvrir Noam Chomsky, dont il avait bien sûr entendu parler, mais qu'il ne savait pas plus. Donc il a assisté, il a regardé ce film et ensuite on a fait un long débat très, très chaleureux et très stimulant avec le public. J'avais gardé en mémoire l'idée un jour que Charles Piaget et Noam Chomsky se rencontrent parce qu'ils ont exactement le même âge, c'est-à-dire les 80 ans passés. Mais ça n'a pas été possible pour des raisons de santé. Et donc, on a gardé cette idée de rencontre avec des syndicalistes. Et donc, hier soir, à la Maison des Métallos à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, il y avait avec nous Annick Coupé de Solidaire, Dominique Malveau de Sudrail, Agathe Martin, que vous avez rencontrée dans un reportage de Pascal Pascariello de PSA, et Philippe Julien également, délégué CGT PSA Citroën, et Xavier Mathieu, vous vous souvenez de lui, avec l'affaire des Conti. Voilà, ils étaient tous là, à la Maison des Métallos, autour de Noam Chomsky, pour parler de syndicalisme. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Noam Chomsky, à Paris. Mostly it's my chin. I'm becoming transfixed with nature and my part in it, which I believe just signifies I'm finally waking up. And that moth outside my kitchen door, she's bonkers for that bear bulb, flying round in circles, bashing in her exhaust, stalling out in the woods. She navigates fine by the moon, but get her around a light bulb and she's done. And she is trying to give up. Government can't fight that new stretch of the imagination. Outlaw a plant, yes, they're supposed authority over nature is a dream. Come on, people, we've got to come clean. Cause they are locking our sons and our daughters in cages. They are taking by the thousands our lives from under us. It's a crash course in religious fundamentals. Now let's all go to war, get some bang for our buck. And I am trying to evolve.
Donc, on a eu l'idée et l'envie de parler de syndicalisme. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, Noam Chomsky, son domaine, évidemment, avant tout, c'est la linguistique. C'est aussi un activiste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup intéressé, il continue de s'intéresser, comment, à la politique extérieure des États-Unis. Il continue de s'intéresser à ce qu'il appelle la fabrique du consentement, manufacture's consent, la façon dont les esprits sont formatés dans les sociétés ouvertes et démocratiques, comme la nôtre, par exemple. Il s'est intéressé à d'autres sujets, comme l'éducation, etc. Mais on connaît moins l'intérêt que Noam Chomsky porte au syndicalisme et aux syndicats en général. Ça nous a semblé intéressant de discuter de ça avec lui, avec un certain nombre de syndicalistes que je vous présenterai au fur et à mesure des questions qui viendront et de leurs témoignages à eux tous. C'est un choix tout à fait arbitraire. On aurait pu avoir d'autres syndicalistes dans d'autres domaines. Ne cherchez pas là-dedans une représentativité, sauf peut-être qu'il s'agit pour la plupart, même exclusivement, de gens qui sont impliqués dans des luttes qui ne sont pas seulement des luttes corporatistes, mais avec une derrière ou en même temps, ou devant d'ailleurs, un projet, disons, politique et une volonté d'émancipation collective. Donc, voilà, présentation brève, et je vous présente quelqu'un, Noam Chomsky, qui est membre d'un syndicat, d'un vieux syndicat américain qui s'appelle IWW. Ça, on le sait peu. C'est la vie secrète de Noam Chomsky.
Noam Chomsky précise un des 10 membres.
Un des 10 membres. Mais enfin, c'est quand même un syndicat.
But I'm the only member whose father was a member.
Et je suis le seul membre dont le père était lui-même un membre de ce syndicat.
Voilà. Donc, on va demander d'abord à Noam Chomsky de sortir du placard et de nous dire pourquoi et comment il est toujours membre du IWW. L'histoire peut-être un peu en quelques mots de ce grand, immense syndicat américain. Et ensuite, puisque très souvent, on trouve le nom de Noam Chomsky sous la qualification de anarcho-syndicalisme ou anarcho-syndicaliste, on lui demandera qu'est-ce qu'il met dans ces mots d'anarcho-syndicalisme. Et ensuite, on demandera à nos amis qui sont là, à travers leurs témoignages, leur expérience, les questions qu'ils ont envie de poser à Noam Chomsky. Alors Noam, parlez-nous un petit peu de ce syndicat et de votre attachement à ce syndicat.
I mentioned that my father was a member of the IWW, so I'll start with that.
Moi, je disais déjà que mon père était membre du IWW, donc je commençais par cela.
He came over as an immigrant and steerage, you know, the bottom of the boat.
Il est venu en tant qu'immigrant dans les cales du bateau.
He didn't know any English.
Il ne savait pas parler anglais.
And he got a job in some factory somewhere.
Et il a trouvé un boulot dans une petite usine.
And he told me that a man was going around trying to organize workers.
Il m'a dit qu'il y avait un gars qui tournait autour de cette usine et qui essayait de syndiquer les ouvriers.
My father couldn't understand what he was saying, but he seemed to be for the workers.
Et mon père ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, mais apparemment il semblait qu'il était du côté des ouvriers.
So he signed up.
Donc il a signé.
That turned out to be the IWW.
Et c'était le IWW.
Which was a pretty significant union.
Qui était à l'époque un syndicat assez conséquent.
It was mostly destroyed by violence. The United States has an extremely violent labor history, much more so than any European country.
Et qui a été détruit par la violence, parce que les États-Unis ont une histoire syndicale très très violente, en cas de répression des syndicats beaucoup plus violente qu'en Europe.
Woodrow Wilson, great liberal, initiated a Red Scare after the First World War. One part of it was to destroy the rising union movement.
Woodrow Wilson, après la Première Guerre mondiale, a lancé ce mouvement qui s'appelait Red Scare, la peur rouge, pour essayer de casser, de briser ces mouvements syndicaux qui prospéraient après-guerre.
And one of the victims was the IWW. They weren't totally destroyed, but seriously weakened by the repression.
Et le IWW n'a pas été complètement détruit, mais très très diminué par cette répression.
And if you look back at the business literature at that time, they were talking about, quoting, the hazard facing industrialists in the rising power of the masses.
Quand on voit la presse économique, les écrits économiques de l'époque, on voit justement les menaces soulevées et les risques qu'encouraient les industriels face aux revendications des ouvriers.
If this sounds like vulgar Marxism, it is. The business classes are vulgar Marxists.
Et si ça ressemble à de la vulgate marxiste, c'en est, parce que la classe économique réagit comme de vulgaires marxistes.
So if you read the business press, it's kind of like reading the little red book of Mao with the values inverted.
Si vous lisez la presse économique, c'est un peu comme lire le petit livre rouge de Mao, simplement les valeurs sont opposées.
And it's a very class-conscious business class. That's one of the fundamental differences between the United States and Europe. The business classes are very class-conscious. They're constantly fighting a bitter class war.
Et la différence entre les pouvoirs économiques en Europe et aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il se vit réellement et effectivement comme une classe qui se bat pour défendre sa place en tant que classe.
Actually, in the last few years, they have been to some extent revived. I was exaggerating when I said there are 10 members.
J'exagérais quand je disais qu'on n'est que 10 membres, parce qu'au cours des dernières années, il y a eu une espèce de renaissance qui a commencé.
And they continue to be what they were traditionally. Anarchist union, believing in one industrial union, one union for everybody.
Et ils sont restés ce qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire un syndicat anarchiste qui croit en l'existence d'un syndicat pour tous.
All working people.
Pour tous les travailleurs.
And their goal should be for them to take over ownership and actually management of all enterprises, just industrial enterprises.
Et leur objectif, c'est de prendre le management, la direction de toutes les entreprises, pas simplement de toutes les industries, pas tout simplement de toutes les usines.
And they have conducted recently strikes which have been moderately successful, mostly in small enterprises like the Starbucks coffee chain.
Et ils ont gagné quelques petites victoires ces temps-ci dans des petits conflits sociaux, en particulier qui touchaient la grande chaîne de café Starbucks.
And I've been a member ever since, you know, I could join anything.
Et moi j'en suis membre depuis l'âge où on peut s'y inscrire.
They actually have possibly a fairly bright future in the United States.
Et ils ont peut-être un futur radieux qui s'ouvre devant eux aux États-Unis.
If you go back to the early days of the Industrial Revolution, the late 19th century.
Parce que si on revient en arrière sur les débuts de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle,
the American working class was extremely radical.
La classe ouvrière américaine était très très radicalement engagée.
Without any influence to speak of from Europe, they didn't know anything about Marx or anything else.
Et ils l'étaient sans avoir les références à ce qui se passait en Europe, au débat intellectuel, à Marx et ainsi de suite, qu'ils ne connaissaient même pas. Ou à peine.
There's a very interesting labor press in the middle and late 19th century, written by working people.
Et il y a toute une presse de syndicale qui date du milieu et de la fin du 19e siècle où c'était les ouvriers qui écrivaient ces articles.
And this is mostly pretty much where I live in eastern Massachusetts.
Et tout ça c'était basé autour de là où j'habite, dans l'est du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis.
And the workers who went into the textile plants and later the steel plants and so on. A lot of them were women. They were called factory girls, women who came from the farms to work in the textile mills.
Et beaucoup de ceux qui travaillaient ou dans les filatures ou dans l'industrie sidérurgique, c'était des femmes qui venaient de la campagne. C'était les factory girls, les filles de l'usine.
Others were independent farmers. It had been an agricultural country who were moving into industry.
Et sinon, c'était l'exode rural de fermiers qui quittaient l'agriculture pour aller dans la ville et travailler pour les industries.
And then there were Irish artisans coming from Boston. Irish at that time were treated pretty much like blacks.
Et aussi une partie d'Irlandais qui habitaient Boston et qui à l'époque étaient discriminés à peu près autant que les Noirs.
The newspapers are extremely interesting and very well worth reading. There is good scholarly work on it now. They're available.
Et c'est très intéressant de porter attention justement à tout ce qu'ils écrivaient dans ces journaux. Et il y a eu d'ailleurs des travaux universitaires qui ont été faits là-dessus.
They were bitterly critical of the industrial system.
Ils étaient amèrement très critiques contre le système industriel.
They said the industrial system is taking away their rights as free American citizens.
Que le système industriel leur prenait leurs droits en tant que citoyens libres américains.
It's taking away their culture, and they had a pretty high culture.
Qui l'ont leur arraché aussi leur culture, qui était pourtant très développée.
For example, a blacksmith in Boston, if he had enough money, would hire a boy to read classics while he was working.
Par exemple, un forgeron à Boston, s'il réussissait suffisamment bien, ben il pouvait embaucher un jeune homme qui lui lirait les classiques pendant que lui travaillerait.
And the factory girls were women who were quite well educated. Self-educated. They'd read contemporary literature. They were interested in classic, you know, what we call classic literature. They would read it. They would read serious political work and so on.
Et celles qu'on appelait les factory girls, les filles de l'usine, elles aussi, elles étaient éduquées, mais elles s'étaient auto-éduquées en lisant beaucoup de la littérature produite à l'époque, qui sont maintenant des classiques, et en lisant aussi des textes politiques.
Anyway, going back to the late 19th century, if you read the press, the written by the factory girls and the Irish artisans and so on, the main theme was that those who work in the mills should own them and manage them.
Et si on revient à ce qui a été écrit dans tous ces articles au milieu du 19e siècle par justement les factory girls, par les Irlandais qui travaillaient à l'usine, c'est que l'usine devait être dirigée par ceux qui la font tourner.
They regarded wage labor as essentially the same as slavery.
Ils considéraient le travail salarié comme relevant de l'esclavage.
The only difference was that wage labor was temporary while slavery was permanent.
La seule différence c'était que le travail salarié c'était un esclavage temporaire alors que l'esclavage réel était définitif.
This was such a popular idea that it was a slogan of the Republican Party.
Et c'était une idée tellement courante, tellement répandue que c'était même un slogan du Parti républicain.
Abraham Lincoln, for example, supported it. It was editorials in the New York Times supported it.
Abraham Lincoln lui-même reprenait cette idée. Il y avait des éditoriaux dans le New York Times qui reprenaient cette idée que le travail salarié est une forme d'esclavage.
And by the 1890s, the popular labor movement had reached such strength that they were taking over towns and cities, running them as workers run towns. Homestead, Pennsylvania was a famous example.
Et à la fin 1890, ce mouvement a pris tellement d'ampleur qu'il y avait effectivement des villes qui étaient gérées par les ouvriers, des usines qui étaient gérées par les ouvriers, comme Homestead, qui était un bon exemple de ça.
Well, the reason I mention this is to say that there is a streak in American culture which is very deep-seated and which I think still remains right below the surface.
Je dis ça parce que je pense qu'il y a vraiment un courant profondément ancré dans la culture américaine et qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, même si c'est sous la surface.
Which could break out at any time, and it's that the IWW appeals to.
Et qui ce courant qui pourrait revenir à la surface à n'importe quel moment, et c'est en tout cas ce que le IWW appelle de ses vœux.
Well, the rest of the history is interesting, but I'll just come up to the present moment.
Le reste de l'histoire est très intéressante, mais je vais passer directement à aujourd'hui.
What's happening in the United States today is quite striking.
C'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, qui est assez saisissant.
It could go in many directions. It could go towards some form of fascism.
Ça peut prendre plein de directions différentes, aussi bien aboutir à une certaine forme de fascisme.
But it could also go in a radical direction which draws from deep strains in American working class culture.
Mais ça pourrait aussi prendre une direction opposée et radicale qui a ses racines assez profondément dans la culture américaine.
So let's take a concrete case.
Prenons un exemple concret.
The Obama administration pretty much owns the auto industry at this point.
À ce jour, l'administration Obama, le gouvernement Obama, à peu de choses près, tient dans sa main l'industrie automobile.
And they're using their power to continue the process of hollowing out, emptying the productive capacity of the United States and turning the economy over to bankers and investment firms and financial institutions.
Et ils sont en train de continuer le travail, complètement dévitaliser toute la puissance industrielle de production des États-Unis et ouvrir le champ encore davantage aux puissances financières, aux spéculateurs et aux banquiers.
Now that doesn't reduce the American role in manufacturing. From the point of view of the managers and owners, it's fine. Instead of producing cars in Michigan, They'll produce them in Mexico or China or some other place where they get very cheap labor and horrible working conditions and no environmental constraints.
Parce que pour les donneurs d'ordre, ça ne change pas grand-chose que ces produits soient manufacturés aux États-Unis ou qu'ils le soient ailleurs, toujours sous leurs ordres. C'est-à-dire que plutôt que les mêmes patrons fassent faire un travail aux États-Unis, ils le feront faire avec des conditions de travail, des salaires abominables dans les pays du tiers-monde.
So for the banks and the managers and the owners, it's wonderful. You know.
Et donc pour les banques, pour les managers et les propriétaires, tout ça est formidable.
But for working people, it's a disaster.
Mais pour les travailleurs, c'est désastreux.
Unemployment among manufacturing workers in the United States is now at the level of the Great Depression.
Le chômage dans les usines américaines est à ce jour au même niveau que pendant la Grande Dépression.
And those jobs are not coming back.
Et ces emplois ne sont pas en train de revenir.
Well, Obama is closing down General Motors plants in the Midwest.
Et Obama est en train aujourd'hui de fermer les usines de General Motors dans le Midwest.
When you close down a manufacturing plant, it puts the workers out of jobs, but it also destroys the community.
Et on sait que quand une usine est fermée, ça met les ouvriers au chômage, mais ça détruit aussi toute la communauté, tout le tissu social qui est autour.
Most of those communities were built by organized workers.
Et toutes ces communautés qui ont été construites par les ouvriers syndiqués.
So it's a disaster throughout the what they call the Rust Belt, the industrial region that's being closed down.
Et c'est un désastre dans tout ce qu'on appelle la ceinture de rouille, qui est toute la zone industrielle qui est en train de finir d'être complètement fermée.
At the very same time, Obama's transportation secretary is traveling in Spain and in France to use federal stimulus money coming from taxpayers to get Spanish and French companies to provide high-speed rail transportation for the United States.
Et en même temps, le ministre des Transports américain vient en visite en Espagne et en France pour pouvoir acheter avec de l'argent public américain des trains à haute vitesse pour les construire aux États-Unis.
This is using taxpayer money.
En utilisant, yeah, bien sûr, l'argent du contribuable.
Well, sooner or later, it's going to occur to working people that they don't have to watch their plants and communities be destroyed. They can take over the plants and produce the high-tech rail equipment right in the United States.
Et un jour ou l'autre, il faudra bien que les ouvriers se rendent compte qu'ils ont plutôt que de regarder les usines se faire fermer pour construire ailleurs, ils ont qu'à prendre en main les usines eux-mêmes et faire ces produits haute technologie eux-mêmes aux États-Unis.
At that point, you're on the verge of a major social revolution.
Et quand on arrive à ce point, on est vraiment au bord d'une révolution sociale de première importance.
Now, I don't predict that it's going to happen,
but
it could happen. Je ne
prédis pas que ça arrive, mais ça pourrait arriver.
And if it happens, which is not impossible, it would be drawing from a history of militant labor in the United States that's deeply rooted and goes back to the earliest days of the Industrial Revolution.
Si ça arrivait, par contre, c'est que ça prendrait ses racines, ça serait en filiation directe avec les mouvements sociaux aux États-Unis qui remontent au 19e siècle.
So even if the IWW is a small union, it may have real prospects.
Et donc, même si le IWW est un petit syndicat, il a peut-être un grand avenir devant lui.
Alors, je vais demander à Annick Coupé, qui est porte-parole du syndicat Solidaire. D'abord, Annick, est-ce qu'il y a un écho entre ce que vient de raconter, de nous expliquer Noam Chomsky et ce qui se passe en France d'après vous? Et puis, peut-être, ensuite, voir quelles questions vous voulez poser ou de quoi vous voulez discuter.
Un écho forcément, parce que quand il parle des destructions sociales qui sont à l'œuvre aux États-Unis, je crois que c'est les mêmes qu'on connaît ici, donc forcément il y a un écho. Ici, comme aux États-Unis, il y a des résistances, mais en même temps, on voit bien que globalement, on n'arrive pas à casser cette machine infernale qui avance, ce capitalisme financier débridé. Donc voilà, moi la question que j'ai envie de lui poser, c'est... aujourd'hui, par rapport à cette mise en concurrence généralisée des salariés, que ça soit dans un pays, mais surtout au niveau international, au niveau planétaire, comment peut-on penser la question de l'internationalisme d'un point de vue du syndicalisme? Ça me semble une question extrêmement importante, parce que je pense qu'elle est posée aux ouvriers américains, elle est posée ici, elle est posée sur l'ensemble de la planète. Quand on va dans les forums sociaux mondiaux, par exemple, on voit bien que c'est un peu ces questions-là qui reviennent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finalement dépasser cette mise en concurrence généralisée dans laquelle on veut nous enfermer ?
Well, As you know, every union is called an international.
Comme vous savez, chaque syndicat se dit international.
None of them are international.
Et aucun ne l'est vraiment.
But it's the right ideal.
Mais c'est l'idéal juste, en tout cas.
It should be workers of the world unite.
Ce serait vraiment les travailleurs du monde unis.
So your point is exactly right.
Donc vous avez parfaitement raison.
The working class is divided
into
segments, whether nationally or religiously or any other
way. Aussi longtemps que la classe ouvrière sera divisée, segmentée par nationalité, par religion ou ce qu'on veut, on n'ira pas très loin.
Well, can the so far globalization, so-called, has been defined by investors and owners?
Jusqu'à ce jour, ce qu'on appelle la globalisation a été défini par les investisseurs et les propriétaires.
So for example, what's called globalization permits free capital movement, but not free movement of labor.
La globalisation permet la libre circulation des capitaux, mais pas la libre circulation des travailleurs.
That's completely counter to the principles of free trade.
Ce qui est absolument contraire au principe du libre-échange.
So if you read, say, Adam Smith, he points out that free circulation of labor, free movement of labor is the foundation of free trade.
Et parce que quand on regarde les textes même d'Adam Smith, on voit que la libre circulation des travailleurs va de pair avec le libre-échange.
For the investment and financial community, they don't want free circulation of labor.
Et pour les investisseurs et la communauté financière, ils ne veulent pas cette libre circulation des individus, des travailleurs.
So they're trying to inspire hatred of immigrants, fear of immigrants.
Et donc c'est
so
pour ça qu'on instille, on attise la peur, la haine des immigrés.
And in many other ways, trying to, as they have done traditionally, to try to make the working classes chauvinistic, nationalistic, frightened.
Et par tous les moyens, essayer d'effrayer et de rendre la classe ouvrière chauviniste, nationaliste.
And the union movement's going to have to overcome this and work towards becoming true internationals.
Et les syndicats doivent trouver un moyen de dépasser ça et travailler effectivement à exister au niveau international.
It's not impossible. There are steps in that direction.
C'est pas impossible d'ailleurs, il y a des pas qui sont faits dans cette direction.
I know the United States much better than Europe, so you can add things that I don't know, I'm sure.
Je connais les États-Unis mieux que l'Europe, donc vous pouvez bien sûr préciser des choses après.
But in the United States, for example, the steel workers union,
par exemple, dans les syndicats des aciéries aux États-Unis,
is offering pretty strong support to the union movement in Colombia.
Apporte son soutien assez conséquent aux syndicalistes en Colombie.
Colombia is the worst place in the world for unions.
Parce que la Colombie est le pire endroit au monde pour les syndicats.
There are more union activists murdered in Colombia than probably the rest of the world combined.
Il y a probablement plus de syndicalistes qui sont abattus en Colombie que partout ailleurs dans le monde.
And not surprisingly, it's the leading recipient of U.S. military aid.
Et c'est peu surprenant de voir que la même Colombie est le pays qui reçoit le plus d'aide des États-Unis.
That's aside from Israel and Egypt, which are a separate category.
À part bien sûr Israël et l'Égypte, qui sont une catégorie à part.
But the steel workers are, in fact, very extensively involved in protecting union activists and union workers
et
and union organizing in Colombia.
Les aciéries américaines sont très impliquées concrètement pour aider et protéger les syndicalistes en Colombie.
Well, that's the kind of internationalism that we want to see fostered.
Et c'est l'exemple même d'internationalisme qu'on voudrait voir s'étendre.
There's a possible framework for this developing.
Il y a peut-être une trame comme ça qui se développe, une trame possible à développer.
The obvious framework is the World Social Forum.
Et il y en a une évidente, bien sûr, ce sont les forums sociaux mondiaux.
The World Social Forum primarily came out of the South.
Qui, à l'origine, sont venus du Sud.
A lot of leadership came from here, in fact, from France.
Et bien sûr, beaucoup des initiateurs venaient d'ici, même en France, plus précisément.
But the mass public participation came from India, Brazil, South Africa, other southern countries.
Mais la participation massive des principaux concernés venait d'Inde, de Brésil, d'Asie.
Where there really are mass popular movements, very significant ones.
Où il y a des mouvements populaires de masse très importants.
And that's why the World Social Forum meets in the South all the time.
Et c'est pour ça que les réunions du Forum social mondial sont la plupart du temps dans le Sud.
Discussion of it in the North often concentrates on Seattle, the meetings in Seattle.
Parce que dans l'hémisphère nord, on se concentre trop volontiers sur ce qui s'est passé à Seattle.
But that's just a residue of Western imperialism and racism.
Et c'est juste un reliquat de l'impérialisme et du racisme occidental.
I mean, it has been going on, and you know, if 500,000 peasants storm the Indian Parliament, that doesn't make news.
Par exemple, si 500 000 paysans indiens font un saccage du Parlement indien, ça ne fait pas une vraie information.
But if there's a demonstration in a northern city, well, something's happening.
Mais par contre, s'il y a une grande manifestation dans une ville occidentale, alors là, c'est comme s'il se passait quelque chose d'important.
Well, the word social forum could become a framework for a real international, in my view, the first real international.
Et à mon avis, le forum social mondial pourrait être une trame pour une première réelle internationale.
That's a hope for the future. I don't think it's out of the question. It would take a lot of commitment and energy.
C'est un espoir pour le futur qui demanderait cependant beaucoup d'attachement et beaucoup d'énergie et d'engagement.
Demain, la suite avec Noam Chomsky. Traduction Guy Vanctil, prise de son Julien Bourdet. C'est Antoine Chao qui a monté cette émission. Merci à Serge Alimi, à toute l'équipe du Monde Diplomatique, au Mutin de Panger, à la Maison des Métallos, à Pierre Picaille, à toutes les petites mains qui ont fait tout le boulot. Un rappel, plusieurs projections exceptionnelles de Chomsky et compagnie sont organisées cette semaine à Paris. Et ce soir, à 19h15, dans la salle Gendarme de la mairie du 2e arrondissement, 17 rue Léopold Bellan, à Paris, dans le 2e. Et je serai avec nos amis pour le débat qui suivra ce film. Pierre-Yves Derolin et Thomas Eliès étaient à la technique aujourd'hui. Koye Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Céline Rouzet attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.